Fort intérieur avec Janine Altounian, une émission préparée avec Anne de Biran, Claude Courteau et Didier Lagarde pour la réalisation. Les différents thèmes qui traversent vos recherches, madame, sont reliés entre eux par des passerelles et on pourrait même dire parfois de larges ponts. Il y a l'Arménie de vos parents, rescapée des massacres de 1915. Il y a la transmission traumatique, conséquence directe du drame. Et, dans le même enchaînement, ce qui est de l'ordre de l'intraduisible. De là, à partir de cet intraduisible, le trajet est direct avec la traduction des textes freudiens et des problèmes si complexes qu'ils posent dans le passage de l'allemand au français. Janine Altounian, 5 ouvrages autour de ces thèmes. Le premier que vous avez publié aux Belles Lettres en 1990, « Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie », c'est tiré d'un poète. Ensuite, vous avez publié chez Dunod en 2000 « La survivance », traduire le trauma collectif, puis l'écriture de Freud, traversée traumatique et traduction, au PUF en 2003, et enfin l'intraduisible, deuil, mémoire, transmission, chez Dunod, 2005. Je le disais enfin, mais non, en 2009, il y a un autre ouvrage, mais qui est un ouvrage collectif, mémoire du génocide arménien, à partir d'un texte de votre père, que vous avez mis du temps à lire pour toute une série de raisons que nous pourrons voir. Et donc, vous avez aussi, il y a aussi d'autres collaborateurs pour ce livre qui a été publié au PUF en 2009. À travers tout cela, l'on voit combien la question du trauma ou du traumatisme est au cœur de votre démarche. Et pour donner de la chair, disons même de la mémoire, à ce thème, commençons par la façon dont le drame de l'Arménie vous a été transmis par vos parents. Donc vous-même, vous êtes né en France, voilà, mais votre père a vécu entre 15 et 19, a vécu le drame de tous ces massacres. Donc enfant, j'imagine que vous étiez baigné dans cette question.
Oui, alors ce qu'il y a d'étrange, vous voyez, c'est qu'au départ, on vit l'atmosphère de sa famille comme une atmosphère allant de soi. Simplement, on prend conscience de la différence quand on va à l'école. Et je dirais à l'école de façon fondamentale, c'est-à-dire que plus on grandit, plus on sa culture, on entre dans la culture de l'autre, la culture du pays d'accueil. À ce moment-là, on perçoit de plus en plus ce qui régnait à la maison. Alors, effectivement, il régnait à la maison d'abord une grande volonté de survie, un acharnement au travail, mais en même temps, quelque chose qui se transmet, qui a dû donc se transmettre à moi, comme la sensation qu'il s'est passé quelque chose de très grave, dans la mesure où on a survécu alors qu'on normalement on aurait dû mourir on aurait dû mourir tué, et c'est cette sensation que l'on verbalise après quand on réfléchit, si vous voulez, avec les armes de la parole, mais l'enfant ne perçoit pas ça, il perçoit que il est comme dans un espèce de ghetto qui s'ouvre heureusement vers l'école, mais à la maison c'est quand même très triste, oui. Mes deux parents, avec une différence d'âge, ma mère avait 10 ans de moins que mon père, donc ma mère a vécu le génocide quand elle avait 5 ans, mon père 14 ans, sont tous d'une certaine façon des survivants, oui.
Mais il y avait quand même formalisation, il y avait des mots pour dire le drame, ou bien alors tout s'est passé en quelque sorte dans l'inconscient dès le départ?
Il n'y avait pas vraiment des mots, c'est-à-dire je n'appartenais pas à une famille où régnait la plainte, mais ça transpirait de partout, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on voyait bien que ça n'allait pas de soi d'être vivant. Je dirais que j'ai entendu des plaintes, surtout de ma grand-mère maternelle que j'ai connue. C'était des sortes de soupirs. Nous avons tout perdu. Et puis une espèce de peur, toujours. Une espèce de peur. Il y avait une sorte d'angoisse. C'est difficile à dire ce que c'est que de savoir qu'on a échappé à la mort et qu'on en a laissé là-bas, si vous voulez. Non, mes parents n'étaient pas dans la plainte, mais ils étaient dans un acharnement au travail qui a quelque chose d'agressif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place dans cette vie à la poésie, à tout ce que l'école m'apportait, que j'aimais, à ce qui peut être gratuit, si vous voulez. Hein.
Tout ce domaine à la fois de la poésie, de l'art, vous a été transmis donc à l'extérieur de la famille.
Oui, par l'école, oui.
Oui, qui a été en quelque sorte presque comme une seconde famille pour vous.
Tout à fait, oui. J'ai toujours ressenti l'école que j'ai appelée la mère adoptive des sinistrés. J'ai ressenti l'école de la République de l'époque, qui hélas est en voie de disparition actuellement, comme un lieu où d'abord je rencontrais des camarades, et puis un lieu qui semble où il allait de soi que la vie était gaie, alors que à la maison c'était pas une évidence. Ce qui était une évidence, c'est qu'il fallait travailler.
Comment vous est venu le goût pour la littérature et pour la pensée ?
Eh bien oui, justement, c'est par l'école. C'est-à-dire par j'ai des souvenirs de mes institutrices qui nous apprenaient, vous savez comment c'est, les récitations, les poèmes. Et puis aussi, c'est un peu, ça va plus loin, si vous voulez. Le fait d'avoir le temps de penser à des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'utilitaire, puisque dans l'atmosphère des survivants, il faut surtout, ce qui prime, c'est l'utilitaire. L'utilitaire qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec une science de la vie. C'est-à-dire mon rapport à l'atmosphère qui régnait chez moi s'est modifié évidemment au cours de ma vie et au cours du travail analytique. C'est que ces gens-là avaient aussi l'art de savoir ce que c'est que de rester en vie, ce qui est une forme de culture. Mais à l'école, la culture qui était transmise était une culture des comptines, enfin dans les petites classes. Et puis au lycée, j'ai adoré la littérature. Et d'ailleurs, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire des études d'allemand, parce que même si j'aimais la littérature française, je n'étais pas bonne en français. Alors que l'allemand, il fallait l'apprendre. Donc j'ai déplacé sans doute mon goût de la littérature sur les études d'allemand.
Dans les années de formation, donc 14, 15, 16 ans, lorsque les lectures peuvent changer effectivement le destin d'un adolescent ou d'un préadolescent, y a-t-il des livres qui vous ont particulièrement marqué ?
Non, pas particulièrement, mais par exemple, ce que je peux vous dire, c'est que le deuxième texte que j'ai écrit en 77, qui s'appelle « Une arménienne à l'école », qui a été publié d'abord au temps moderne et qui est repris dans mon premier ouvrage, « Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie », qui est un vers de Corneille, de Nicomède, donc qui traduit déjà mon rapport à la littérature. Eh bien, donc dans ce texte, « Une arménienne à l'école », je me suis appuyée sur le personnage d'Andromaque, parce que on m'avait demandé de faire un texte sur les enfants de migrants, et j'ai réalisé qu'en fait Andromaque, c'était une veuve qui avait perdu, comme les veuves que je côtoyais chez ma grand-mère, qui avaient perdu leur pays, leurs proches. Donc je dirais pas que telle ou telle œuvre m'a impressionnée plus que d'autres, mais j'adorais les explications de texte. Et par exemple, lorsqu'on m'a demandé d'écrire quelque chose sur les enfants de migrants, la première idée que j'ai eue, c'est d'aller relire Andromaque.
Donc si je comprends bien, il y a au départ deux données chez vous qui ne coïncidait peut-être pas forcément, en tout cas qui avait peut-être du mal à se marier, qui était celle de l'école de la culture républicaine, insistons, parce que comme vous, effectivement, je suis très inquiet devant l'avenir de cette école.
Pour moi, c'est un grand... C'est très dangereux.
Bon, c'est très dangereux, nous sommes d'accord. Donc, fermons cette parenthèse. Oui. Donc, il y avait cela qui vous donnait accès à la culture, à l'art, à la langue française aussi. Et puis, il y avait la famille et éventuellement l'affection aussi de cette famille. Donc, vous naviguiez facilement de l'un à l'autre ou il y avait déjà quelque chose de difficile de passer de ce monde-ci à ce monde-là ?
Eh bien, vous avez dit en présentant ma personne tout à l'heure qu'il y avait des ponts dans mon travail. Alors, je dirais que j'ai passé ma vie, effectivement, à établir des ponts. Et le travail de traduction est par définition un travail d'établissement de ponts. Alors, si vous voulez, il faut beaucoup de temps, et ça c'est justement le mérite du travail analytique, il faut beaucoup de temps pour traduire les valeurs de sa famille dans celles du pays d'accueil et vice-versa. Par exemple, je vous disais tout à l'heure que dans cette atmosphère de survivants attelés au travail, on aurait tort de penser qu'il n'y a pas de culture. Il y a une certaine forme de culture qui est le rapport à un savoir, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est l'urgence des choses à accomplir pour établir la sécurité de la vie. C'est une forme de culture profonde, mais il faut beaucoup de temps pour arriver à comprendre cela. Parce qu'au début, effectivement, on vit ces deux espaces comme séparés.
C'est ça, et au début, ça n'est pas forcément valorisé d'être, je ne dis pas prisonnier, mais d'être attelé uniquement aux tâches matérielles, aux tâches de survie.
Non, ce n'est pas valorisé.
Vous parlez d'ailleurs, Jeanine Altounian, dans un de vos livres, vous parlez du rapport manuel avec les choses, avec la broderie, avec les éléments, les aliments. Oui. Ça fait partie de l'héritage familial.
Ah, tout à fait. Alors, vous voyez, là, vous me rappelez une des valeurs très poétiques, mais qui ne se vit pas comme poésie. Mais j'ai toujours été très émue en voyant... mes deux parents, puisque mon père était tailleur, mais je parlais des broderies de ma mère, et puis les dentelles de ma grand-mère maternelle. J'ai toujours admiré, c'est-à-dire que c'est le seul espace, si vous voulez, où je suis complètement en paix avec les personnages familiaux. En paix, je veux dire que je peux les admirer, je peux les aimer tranquillement. Il y a dans les gestes de ces femmes qui savent, et de mon père aussi d'une certaine façon, dans les gestes qu'ils ont par rapport aux matériaux, un art de vivre et quelque chose de l'ordre de l'esthétique qui leur vient spontanément et sans doute de la culture arménienne.
Je suis un peu étonné par votre remarque, comme s'il s'agissait d'un domaine où vous pouviez les aimer, ça veut donc dire qu'il y a un domaine où vous avez de la résistance.
Oui.
Alors, je pousse un peu plus loin ma question.
Oui.
Est-ce que ce domaine où vous avez de la résistance est le fait qu'ils portaient ce malheur, mais ils n'en sont pas responsables du tout? Donc, comment accuser quelqu'un qui n'est pas du tout responsable du trauma qui lui est arrivé?
C'est-à-dire qu'on ne l'accuse pas, mais d'ailleurs, au moment où
on lui fait des reproches quand même.
Non, mais d'abord, si vous voulez, dans cette atmosphère-là, on n'est pas très attentif à la vie de l'enfant. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on ne sait pas ce qui se passe en lui. Il faut qu'il aille à l'école et puis qu'il travaille, c'est tout. Mais quand je dis que dans ce registre-là, je pouvais les aimer tranquillement, c'est que il y a dans les gestes qui confectionnent quelque chose, qui savent faire avec le peu qu'on a, un rapport poétique et un rapport de tendresse, si vous voulez encore, disons le mot. Alors que dans le reste de la vie quotidienne, il n'y a pas beaucoup de place pour la tendresse.
Alors nous allons nous approcher à pas de loup du docteur Freud avec votre psychanalyse. Je crois que la première psychanalyse commence en 1958.
Non, en 68.
En 68, pardon, excusez-moi.
Ce n'est pas grave, je vous en prie.
Oui. Donc en 68, une première psychanalyse. Oui. Pourquoi une psychanalyse ?
Ah bah d'abord, vous savez, il y a des effondrements dans la vie, par exemple dans la vie conjugale, mais qui s'expliquent aussi par le fait qu'on est très fragile. Enfin bon, donc j'ai entrepris une analyse à ce moment-là pour des raisons qu'on appelle personnelles.
Mais attendez, je vous interroge juste une petite seconde. Donc vous saviez qu'existait cette méthode de guérison ?
Ah ben oui,
oui. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez comme une connaissance de ce que peut faire ou ne pas faire la psychanalyse.
Ben, c'est-à-dire que d'abord, j'avais fait des études d'allemand, j'avais lu Freud dans le texte, j'aimais beaucoup lire Freud, j'adore l'allemand, donc ça faisait partie de mes lectures.
Voilà, oui. Il manquait cette place du puzzle.
Oui, oui. Évidemment, oui. Évidemment. Oui. Oui, j'étais germaniste, pour moi, quand on me demande avec suspicion pourquoi j'ai fait des études d'allemand, et je dis toujours, mais moi j'adore l'allemand, j'aime l'allemand des juifs allemands, l'allemand de Freud, l'allemand de Kafka, l'allemand du Lied, l'allemand des cantates de Bach. Donc si vous voulez, j'adore l'allemand. Bon, donc j'avais lu Freud pendant mes études. Et puis par ailleurs, j'avais eu la chance de pouvoir faire des études et donc je connaissais quand même certaines choses, je savais que la psychanalyse existait.
Oui, mais alors donc vous parlez de questions personnelles, nous n'avons pas à les aborder ici, oui. Mais est-ce que la question arménienne est entrée dans votre désir de suivre une psychanalyse ?
Non, c'est pas comme ça que c'est venu. Non. Non, c'est-à-dire que c'est apparu au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au cours du travail analytique, parce que le travail analytique permet, est un espace de comme l'école, je dirais d'ailleurs souvent, que pour moi le travail analytique est une poursuite du travail à l'école. Le travail analytique se fait dans un espace qui vous crée de la distanciation et qui vous permet de voir qui sont vos parents, de rechercher d'où vous venez. Donc, à partir du moment où je suis entrée en analyse, j'ai eu envie de lire, puisque j'étais une Arménienne et je le suis encore, plus ou moins, complètement déculturée. J'ai eu envie de lire des livres, de connaître cette histoire. Et à ce moment-là, j'ai fait le lien avec l'atmosphère que je vivais à la maison.
Ah oui, que vous n'aviez pas fait naturellement.
Non. Voilà, non. C'est-à-dire que je ne savais pas.
C'est la psychanalyse qui vous a permis de...
Oui, la psychanalyse et les lectures, c'est-à-dire j'ai pu mettre des mots là-dessus.
Oui. Et alors, assez vite, peu après cette psychanalyse, si je ne me trompe pas sur la date, donc dès 70, vous allez rejoindre l'équipe éditoriale chargée d'élaborer, ça va prendre énormément de temps, de nouvelles traductions de Freud.
Alors, si vous voulez, voilà comment ça s'est passé. J'étais enseignante d'allemand. Le hasard de mes rencontres a fait que j'ai rencontré une équipe de traduction, laquelle, qui m'a accueillie, où se trouvaient Pierre Cottet et André Bourguignon, qui sont par la suite devenus les éditeurs de publications des œuvres complètes dirigées par Jean Laplanche, dont le premier volume est sorti, je crois, en 88. Mais lorsque j'ai rencontré cette équipe de traduction, en 70, nous élaborions lentement, puisque j'étais prof, et donc en même temps, j'allais, je crois, aux séances de traduction une fois par semaine, peut-être. Nous élaborions des textes qui étaient déjà publiés au PUF, à partir de 70. Et ensuite, ce groupe auquel j'appartenais a été coopté en quelque sorte par Jean Laplanche lorsqu'il a entrepris de faire les œuvres complètes de Freud, dont le premier volume est sorti en 88.
Et vous avez suivi cette aventure depuis cette
oui,
date-là
depuis, oui, depuis, oui. Oui, depuis.
Car vous n'avez pas arrêté de vous atteler à ces traductions.
Non, au début, j'étais co-traductrice. Donc, je vous dis, j'étais prof d'allemand et en même temps, j'allais une fois par semaine rejoindre mes collègues. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai pris une retraite anticipée, etc. Donc, j'ai pu avoir plus de temps. Et actuellement, je suis à la fois co-traductrice, mais en même temps, je fais partie de l'équipe de relecture qui revoit tous les textes retraduits en ce moment avec Jean Laplanche et Pierre Cottet.
Oui, un travail considérable dans la mesure où il doit y avoir une harmonisation.
Oui, c'est
quand
ça.
Freud utilise tel mot dans tel livre, il va falloir retrouver plus ou moins.
Plus ou moins,
parce qu'il peut l'utiliser dans un contexte
différent.
En tout cas,
si on ne reprend pas, il faut savoir pourquoi.
Oui, pourquoi on le fait, pourquoi là, entre telle date et telle date, il aurait évolué. Donc le mot français peut avoir évolué, mais il faut éviter tous les contresens. Et alors, ce qui m'a frappé en lisant votre écriture de Freud, c'est l'extraordinaire difficulté du passage de l'allemand au français, compte tenu de ce que l'allemand est l'allemand et le français est le français. Mais on va sortir de cette tautologie, compte tenu aussi de la façon dont Freud utilise l'allemand.
Ben oui, c'est-à-dire que la langue de Freud est une langue, je dirais, passionnante, parce que c'est vrai que apparemment c'est une langue simple, mais c'est très apparent parce que d'une part sa conceptualisation part d'une langue relativement simple, mais la manière dont les concepts se forment en allemand, comme le dit très bien Goldschmidt, les concepts se forment de façon très concrète, par adjonction de suffixes, etc., de préfixes. Donc, dans la langue de Freud, il y a à la fois une langue relativement simple, mais là-dessus se greffe sa conceptualisation, et il y a aussi une sensibilité littéraire dans certains passages, et c'est ça qui rend les choses difficiles, parce que, en tant qu'écrivain, il a un rapport très ludique à la langue, et il s'en sert, inconsciemment évidemment, je suppose, comme tout écrivain, pour faire passer sa conceptualité de l'inconscient.
Oui, et puis, si je vous ai bien compris, il y a des moments où, effectivement, il peut être dans le domaine quasi-scientifique,
oui.
Et il y a des moments où ce domaine n'est pas capable de saisir la complexité de sa pensée, et où il aurait besoin d'une métaphore. Donc là, vous avez parlé d'une sorte de choix littéraire, mais c'est peut-être aussi la nécessité pour faire passer la complexité d'une pensée.
Oui, vous savez, je ne pense pas que ça soit au moment où il se rende compte qu'il a besoin d'une métaphore. Comme tout véritable écrivain, je vais vous donner un tout petit exemple amusant. Eh bien, d'emblée, dans l'écriture, il fait passer quelque chose, si vous voulez. Je donne un simple exemple que beaucoup de gens connaissent. Il parle de la femme mélancolique qui se plaint. Alors, la plainte, elle se plaint, elle est pas heureuse, etc. Et elle se plaint, elle plaint son mari qui a en elle une personne triste. Et elle se plaint, la plainte en allemand, c'est die Klage. Bien. Freud dit, mais en fait, cette plainte, si je le dis en français, cette plainte, c'est une accusation. Or, il suffit que... Si je dis « cette plainte, c'est une accusation » en français, je ne rends pas sa pensée, parce que sa pensée passe de « klage », la plainte, à « die Anklage », c'est-à-dire l'accusation. C'est-à-dire que dans sa pensée, une fois qu'il a élaboré le mot « klage », il pense à « Anklage » qui est la vérité de son état. En fait, c'est une accusation contre son mari. On ne peut pas dire qu'il fait ça parce qu'il n'arrive pas à le dire autrement. C'est au contraire la langue qui porte la pensée. Et il y a de très grands passages comme ça.
Oui, donc à ce moment-là, il va falloir trouver des mots différents.
Ben oui, alors je me rappelle que c'était un passage où on était très embêtés parce qu'on voulait faire passer ça. Alors je crois qu'on a adopté le fait que autrefois, dans la langue, les accusations au tribunal étaient des plaintes portées contre. Alors, je crois qu'on a dû traduire « sa plainte est une plainte portée contre ». Mais voyez, on est obligé, évidemment, de redire quelque chose. Ou alors, on dit carrément « sa plainte est une accusation » et on ne fait rien passer.
Oui, ça ne suffit pas. Oui. Voilà. Oui. Il y a un autre exemple là qui m'a frappé dans votre ouvrage, Janine Altounian. C'est à propos de la femme, parce qu'effectivement, il en est souvent question,
oui.
Et chez Freud et chez vous. Donc, il en est souvent question. Il y a trois manières de parler de la femme en allemand, mais particulièrement chez Freud, au féminin, au masculin ou au neutre. Et alors, comment le rendre en français?
Oui, je me rappelle avoir eu cette discussion avec vous, c'est-à-dire que, un petit peu pour m'amuser, je disais que la femme est d'abord un être humain, donc ein Mensch, qui est au masculin. Ensuite, elle est ou bien eine Frau. Et die Frau, c'est en quelque sorte l'équivalent du mari, de l'homme, der Mann.
Mais elle donc, c'est la femme en tant qu'épouse.
C'est la femme en tant qu'épouse, oui. Ça vient du vocabulaire un peu féodal.
Voilà, c'est sexué.
C'est ça, c'est la femme du maître, du seigneur.
Ah, du seigneur et maître. C'était une belle époque.
Ça vient du langage féodal, oui. Et puis, alors, il y a das Weib. Alors là, c'est la femme qui... C'est à la fois une connotation, si vous voulez, soit vulgaire, soit au contraire presque sacrée, quelque chose de difficile à comprendre pour Derman.
Or, si l'homme aime bien sacraliser la femme quand même. On l'a beaucoup fait, notamment dans ce Moyen-Âge que vous avez critiqué.
C'est une grande discussion, mais je crois que c'est Diffraud qui l'aime sacraliser.
Ça, écoutez, là, c'est une discussion passionnante qu'on n'a pas le temps vraiment d'approfondir.
Oui.
D'approfondir. Mais maintenant, la question concrète, c'est comment faire alors ?
Non, mais alors ça, ce n'est pas possible. Ça,
c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire des
c'est-à-dire
notes
que moi, c'est-à-dire que moi, je me suis amusée, c'est au moment où dans mon livre, j'expliquais le neutre, je disais que le problème, il y avait un neutre en allemand, et je donnais ça comme exemple, de même que l'enfant d'Askind est également un neutre. Mais dans, par exemple, l'amour de transfert, à chaque fois qu'il y a Frau et Weib, on traduit femme. Hein, on peut pas... Alors parfois, je crois qu'on a mis créature, etc., mais...
Créature, c'est pas très joli. Oui,
oui. Oui.
Et un
oui.
F majuscule, quelquefois.
Non.
Non, mais parce voyez, qu'à ce moment-là, la femme devient une sorte d'entité.
Je voudrais vous donner un autre exemple par
oui.
rapport à.
Oui, mais la femme, ça m'intéressait.
Vous me parlez, mais parce que justement, c'est un exemple concernant le féminin.
Ah, très bien.
Voilà. C'est en rapport justement avec, vous disiez, qu'il a besoin d'une métaphore dans la langue pour dire quelque chose. Non, enfin, il n'a pas besoin, ça vient comme
oui,
ça.
Oui, oui.
Alors, par exemple, dans la,
m'avance prudemment.
Dans sa correspondance avec Lou Andrea Salomé, où Freud est un très grand connaisseur du féminin, alors que, malfois, dans ses textes théoriques, il est passé parfois à côté, je dirais. Bon, eh bien, il lui dit que... C'est une grande compreneuse, c'est une compreneuse par excellence. Enfin, vous voyez, le mot compreneuse en français passe pas bien, mais en allemand, c'est facile. On prend le verbe comprendre, verstehen, et puis alors, on le féminise, eine Verstehen. Bon. Mais alors, il explique que comprendre, alors ça, c'est vraiment extrêmement subtil. Il dit comprendre, c'est comprendre au-delà de ce qui se tient debout là. Mais pour faire, c'est-à-dire qu'il faut dépasser ce qu'on voit, il faut aller plus loin. Mais en fait, il se sert du fait que Verstehen a pour radical Stehen, qui veut dire être debout, se tenir debout. Et en fait, il dit vous y Verstehen mehr als was steht, c'est-à-dire vous comprenez mieux que ce qui se trouve là. Mais si vous voulez, à ce moment-là, le mot Verstehen, par sa particule ferme, montre bien que le Verstehen englobe et est plus vaste que le Stehen. Que, en fait, tout ce qui steht, tout ce qui est là, n'a de sens que s'il est Verstanden, s'il est englobé. Et c'est un immense hommage au féminin.
C'est un immense compliment, oui.
Voilà,
d'ailleurs, vous amusez, je ne sais pas si c'est par amusement que vous le faites ou par rigueur scientifique, de mettre Freud lui-même en quelque sorte en contradiction entre, vous venez d'ailleurs de l'évoquer rapidement, entre les textes théoriques où effectivement ce qu'il dit des femmes n'est pas forcément à la gloire du féminin,
oui.
Et les lettres magnifiques, vous en donnez des
ah,
extraits.
Ah oui, c'est très beau.
On s'aperçoit, je ne connaissais pas à ce point-là, l'enthousiasme qu'il a eu pour
oui,
Andrea Salomé.
Oui.
Alors là, il l'a mis sur un piédestal magnifique. Comment expliquer justement que le même homme puisse avoir d'un côté vis-à-vis de la femme et du féminin des réticences et d'un autre côté la mettre sur un piédestal ? Est-ce parce qu'il a considéré que Andrea Salomé était exceptionnel, mais... Il parle d'elle en tant que femme.
Oui, oui, oui. Justement, il dit qu'elle,
oui,
il dit qu'elle comprend, bon. Mieux que lui parce qu'elle sait faire des synthèses.
Voilà, et oui, mais en tant que femme.
Oui, en tant que femme, oui. C'est pour ça que...
Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'il aurait pu la traiter en disant, vous, quelle chance, vous êtes comme les hommes. C'est
non,
pas
non,
ça.
Pas du tout,
hein,
non,
c'est
non,
pas
du
tout ça.
Non.
Donc alors, quelle réponse donner
Écoutez,
à ce
d'abord, je vous donnerai
paradoxe.
Une réponse générale. Vous savez que beaucoup des intellectuels, des professeurs, des savants que nous connaissons ont dans leur vie personnelle un comportement qui n'est pas en accord avec leur théorie.
Nous sommes d'accord, madame. Mais là, il s'agit de texte.
Oui.
Texte et texte.
Oui. Ah ben non, parce que... Avec Lou Salomé, c'est de la correspondance,
des lettres,
ce sont
oui,
des lettres.
Oui, mais
c'est une relation
des lettres
personnelle.
Haut de gamme, oui, oui.
Oui.
Ah oui.
Ce sont des lettres personnelles.
Oui.
C'est une relation personnelle. De même que moi, j'ai lu les lettres à sa fiancée, c'est magnifique. Ce sont des lettres, il lui dit à un moment donné, tu es plus intelligente que moi, j'ai peur de toi.
Il avait envie de l'épouser.
Eh bien, vous voyez, je crois que c'est vous qui trouvez la réponse.
Non,
dans
le cas de sa fiancée, je n'ai pas d'opinion. Dans le cas de Lou Andrea Salomé,
oui.
C'était autre chose. C'était sur un autre plan que se passait leur
oui,
relation
oui,
très
oui,
élevée.
Oui, 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 encore que...
Encore que, vous pensez que...
Je ne sais pas, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il doit y avoir un lien entre le fait qu'il a vraiment une perception tout à fait aiguë et juste du féminin, alors que bien évidemment, il n'y a pas de rapport charnel entre eux. Ça doit s'expliquer d'une certaine façon. Moi, je ne suis pas psychanalyste. Mais les textes qu'il a écrits sur la sexualité féminine sont évidemment... Il ne faut pas y faire trop attention, quoi. Je ne les prends pas trop au sérieux, si vous voulez.
Donc, vous prenez de Freud ce qui vous convient.
Ben oui, évidemment.
Mais quel aveu!
Bah écoutez, c'est un homme qui a travaillé une certaine époque, il a vécu une certaine époque. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les théories Freud, c'est tout ce qui concerne l'inconscient et comment l'inconscient travaille et présent, comment les choses se transmettent.
Enfin, la sexualité féminine est de l'ordre de l'inconscient aussi, conscient-inconscient.
Oui, mais c'est vrai que là... Je ne pars pas en guerre contre lui parce que ces histoires de clitoris qui ne sont pas aussi grands que le pénis, je trouve ça franchement ridicule.
Bon. En ce qui concerne l'interprétation des rêves qui deviennent maintenant l'interprétation du rêve.
Oui, enfin,
et là, il y a une signification importante du passage du singulier à la place du pluriel. Oui.
Si vous voulez, ça c'est... nous l'avons... Le premier, dans la série des œuvres complètes de Freud, l'interprétation du rêve, c'est le titre que nous avions donné. Le livre est sorti en 2003. Et là, j'avoue que je ne suis pas la mieux placée pour vous expliquer ça. Mais si vous voulez, là, vous abordez le problème des mots composés en allemand. Alors, donc, die Traumdeutung, donc le deuxième terme, c'est donc l'interprétation. Et Traum peut être pris soit... comme un substantif, soit en quelque sorte comme un qualificatif, c'est-à-dire l'interprétation de ce qui ressort, de ce qui est apparent, qui est celui du rêve d'une façon générale. Et c'est comme ça qu'il faut l'entendre, oui.
Phrase de vous qui va nous permettre de revenir d'une certaine manière vers l'Arménie. Traduire, écrivez-vous, traduire, virgule, c'est témoigner dans une langue étrangère à l'expérience initiale.
Oui.
Donc une langue qui est étrangère à l'expérience initiale, d'une part interdite de fait, d'une parole secrète à transmettre.
Oui.
Cette phrase est importante parce que je pense qu'elle rejoint ce qui est essentiel chez vous, justement que vous dites dans l'intraduisible ou bien dans la survivance.
Oui, alors si vous voulez, j'ai été obligée, moi, de m'interroger sur le lien qu'il y avait entre mes deux champs d'activité. Parce que d'abord, on m'a toujours demandé pourquoi je n'étais pas psychanalyste, puisque à partir du moment où j'ai commencé à écrire, qui a fait l'objet du premier livre, j'ai été souvent invitée chez des psychanalystes qui s'occupaient justement de la transmission du trauma. Et j'ai compris que non, je n'avais pas du tout envie d'être psychanalyste, mais j'avais envie de dire quelque chose et de traduire quelque chose. Et en fait, j'ai toujours essayé de traduire ce que les survivants ne peuvent pas dire. Alors, ils ne peuvent pas dire pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce qu'ils ont vécu, on ne peut pas le dire. Si on le disait, on ne pourrait pas vivre. Quand on lit des livres sur ce qui s'est passé pendant le génocide arménien, on n'a plus envie de venir à la radio, à France Culture, entre 21h et 22h. Ce n'est pas possible. On trouve ça dérisoire. Donc, ça ne se dit pas, mais aussi parce que les moyens de la pensée et de la parole, on n'a pas pu les acquérir.
Ah oui. Je pensais aussi qu'il pouvait être insuffisant par rapport à l'ampleur du drame.
De toute façon, c'est insuffisant, voilà. Oui.
Mais il y a aussi ceux qui, justement, n'ont pas eu accès à la parole. Et alors, quel lien avec la traduction? C'est là où, justement, il y a un pont essentiel.
Eh bien, c'est-à-dire que je pense, effectivement, vous savez, j'ai cité dans La Survivance, où j'ai étudié le livre de Camus, Le Premier Homme, parce que mon propos ne concerne pas seulement les descendants de génocide. Si on lit par exemple le premier homme de Camus, et on voit bien que dans son livre, il dit, il traduit ce qu'il a vécu auprès de sa mère et de sa grand-mère. C'est-à-dire que les gens qui viennent aussi après des générations de pauvreté, de misère, n'ont pas les moyens de dire ce qu'ils vivent, ils n'ont pas les moyens de le penser. Or, je pense que celui qui peut le faire, et c'est ainsi que Camus a dit dans son discours quand il a eu le prix Nobel, que la tâche des écrivains, c'était de dire ceux qui n'ont pas la parole, ceux qui ne peuvent pas dire, de parler à la place de ceux qui ne peuvent pas le faire. Eh bien, je pense que les enfants de survivants, à qui ces choses-là ont été transmises, corporellement, je dirais, doivent essayer de dire ça dans la langue politique et culturelle des pays où ils ont été accueillis. Oui, c'est une forme de traduction.
Retour à l'Arménie. Culture, fort intérieur avec Janine Altounian. Ben voici un chant sacré qui manifeste une belle énergie, oui, magnifique, quel enthousiasme
ça, je l'ai
pour
choisi
chanter
pour
la
ça.
Gloire de Dieu. Oui.
Je l'ai choisi pour ça, oui.
Et ça correspond à une foi chez vous?
Non. Alors quand vous m'avez demandé de choisir quelque chose, j'ai voulu choisir un chant liturgique parce que dans les espaces d'amour, je dirais, que je voue à ma famille, je vous ai parlé de l'espace des mains qui font de jolies choses, des broderies, des dentelles. Il y a aussi le fait que ma grand-mère maternelle était une femme pieuse et m'emmenait à l'église arménienne. Et c'est très étrange pour moi parce que je crois que je ne crois pas en Dieu. Mais quand on me demande si, quelle est ma position vis-à-vis de la religion, je dis, écoutez, moi, je ne sais pas, mais ma grand-mère m'a amenée à l'église arménienne. Oui. Et je crois que mon amour de la musique vient également de là.
C'est amusant, cette phrase. Je crois que je ne crois pas. Ça veut dire que votre incroyance n'est pas une certitude.
Non, ce n'est pas une certitude, non. Non.
Oui. Mais ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être une part de l'inconscient qui serait prête à croire.
C'est-à-dire que c'est un inconscient qui a été très touché par cette femme. Parce que ce qui m'a toujours frappée chez des gens comme ma grand-mère, c'est comment ça se fait qu'ils ont gardé un espoir et une foi dans la vie après ce qu'ils ont vécu.
Oui.
Et donc, c'est ça qui se transmet aux enfants et aux petits-enfants. C'est qu'on ne comprend pas, mais n'empêche qu'il faut vivre. Et il y a une transcendance, quelque part, hein, une spiritualité.
Venons-en à ce texte étonnant de votre père, que vous publiez dans « Mémoire du génocide arménien », avec comme sous-titre « Héritage traumatique, en attendant le traumatisme et travail analytique » au PUF. Donc, vous avez mis, votre père avait écrit... avec l'écriture arménienne, mais la langue turque, qui était celle de Brousse, où il vivait, a écrit un texte sur son drame.
Oui.
Et vous avez mis des années avant de vouloir le lire.
Oui.
De vouloir ou de pouvoir ?
Alors, de pouvoir, c'est-à-dire que... J'explique ça dans ce livre. Il y a une partie autobiographique, enfin il y a plusieurs auteurs, j'en parlerai, 5 psychanalystes, il y a moi et il y a le traducteur du texte de mon père qui a fait un article où il explique toutes ces choses-là, Krikor Belediyan. Donc si vous voulez, ce que j'explique c'est que 8 ans après la mort de mon père est mort en 1970, j'ai appris un peu incidemment qu'il avait écrit un texte.
Ah oui, il ne vous en avait jamais parlé.
Non, c'est pour ça que c'est
une expérience. Par pudeur, vous pensez ?
Je ne peux pas vous dire, ça c'est le mystère. Vous savez, s'il n'y avait pas des mystères comme ça, on n'irait pas des années en psychanalyse. Je ne veux pas dire que ça aide à déchiffrer le mystère, mais on est quand même très travaillé par ces choses incompréhensibles. Donc, j'apprends qu'il a écrit quelque chose. Non, il ne m'en avait pas parlé, non. Mon père me parlait peu. C'était un personnage très présent dans la maison, mais bon, les enfants, c'était l'affaire des femmes, quoi. Bon, mais il avait c'était un personnage prestigieux, sans doute, qui a dû beaucoup influencer la petite fille oedipienne que j'ai dû être. J'ai dû beaucoup l'admirer, je suppose. Hein. Je crois que mon amour de la littérature vient de là, parce que c'était un très bon conteur. C'est-à-dire que ce qu'il écrit, quand j'ai découvert, donc je reviens en arrière, j'apprends dans les années 78 qu'il a écrit quelque chose. Alors, comme j'avais déjà... commencer un travail analytique. J'étais donc très réceptive à tout ça. J'ai demandé à ma mère qu'elle me donne ce petit cahier et je l'ai fait traduire. Je l'ai fait traduire et ma première réaction quand j'ai lu a été une sorte d'effondrement, alors difficile à expliquer, parce qu'en réalité, ces choses-là, il les racontait, mais pas à moi, il les racontait à des amis, et il les racontait justement en turc, dans une langue que j'étais censée ne pas comprendre. Et ce sont ce qu'on appelle en analyse des souvenirs écrans, c'est-à-dire que je me vois petite fille en train de l'écouter alors qu'il parlait à ses amis. Et là aussi, d'ailleurs, il y avait dans sa voix et dans ses gestes, non pas quelque chose de l'ordre de la victimisation, mais je l'ai vécu comme un homme qui raconte des aventures dont il serait sorti vivant. J'allais presque dire comme une sorte de western qui se terminait bien. Bon, et quand j'ai donc lu le contenu de ce texte, j'ai été quand même très accablée, parce que bouleversée, parce que je voyais bien que toutes les valeurs qui étaient dans ce texte étaient celles de cet homme que j'avais connu. Alors, ce qui s'est passé, pour effectivement ce texte a une grande histoire, c'est qu'il y a eu un acte de résistance arménienne, qu'on a appelé un acte de terrorisme publicitaire, la prise d'otage au consulat de Turquie en septembre 81, et c'est grâce à ce bouleversement politique qui a fait parler pour la première fois dans tous les médias de la problématique arménienne, que, comme j'avais commencé à publier au temps moderne, je leur ai apporté ce texte et la première publication du texte a eu lieu en 82. Alors ensuite, lorsque l'ensemble des textes des temps modernes est sorti dans mon premier livre, donc il réapparaît dans mon premier livre, et puis bon voilà, ça, il était là, j'allais dire je m'en occupais pas trop. Mais j'ai, dans l'intraduisible justement, donc un grand nombre d'années après, j'ai tenté d'en faire l'explication, de faire une explication de texte de ce texte, alors que la plupart de mes articles portent sur le texte d'autres. Tout à l'heure, je vous parlais du premier homme de Camus, mais j'ai aussi commenté le texte de Jean Améry, un survivant de la Shoah, etc.
Et je oui, me suis... Albert Camus, Ernaud, Sarraute, oui. Sarraute, avec toujours des passerelles entre le destin de Sarraute
oui,
et le vôtre.
Oui, c'est ça. Ah ben oui, et... c'est ça, son oui. travail à l'école, ce qu'elle dit sur l'école.
Oui.
Donc, en 2005, j'ai pu aborder ce texte comme on aborde un texte, quoi.
Avec distance ?
Oui, alors, en fait... C'est pas avec distance, mais c'est justement pour acquérir de la distance, c'est ça.
Mais parce que vous dites quelque part que vous avez presque pu l'aborder comme un texte historique, s'il ne vous concernait plus directement. C'est ça qui est intéressant entre l'émotivité de la première approche et la distance que vous arrivez à créer.
Oui, vous savez, je crois que j'arrive à créer de la distance à cause de la demande des autres. Parce que dans ces histoires, tout à l'heure, je n'ai pas pu vous expliquer correctement, ce qui spécifie le trauma, c'est que les relations sont fusionnelles. Il n'y a pas de distanciation, il n'y a pas de triangulation. Or, à partir du moment où on crée déjà une distance par le travail analytique, mais aussi on crée une distance par la demande de quelqu'un qui vous dit « Est-ce que tu pourrais faire un texte ?» Parce que récemment, par exemple, on m'a demandé de faire un texte sur la résistance. Et la résistance au sens de « Qu'est-ce que c'est que résister ?» Eh bien, j'ai analysé, donc après même la publication du livre de 2009, j'ai analysé, donc comme quand on analyse un texte, les différents éléments qui, dans le texte paternel, spécifient une posture de résistance. Mais je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la demande de l'autre crée une instance distanciatrice. Et à ce moment-là, je fais comme si j'analysais un texte. Mais je fais ce travail alors qu'il y a beaucoup d'affect, au contraire. Mais ça libère de l'affect.
Voilà, donc ce que vous venez de dire, qui me semble très important, c'est que justement, pour pouvoir se guérir, sans guérit-on jamais, c'est pas forcément, mais en tout cas, pour que la douleur soit moins importante, il faut tenter de créer cette distance.
Oui.
Et la psychanalyse peut créer cette distance. Pour tous ceux qui ont reçu des traumas, que ce soit des traumas à travers l'histoire ou à travers la vie personnelle,
elle peut la créer, mais si vous voulez, le travail analytique entre dans une conception beaucoup plus large. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé d'écrire partout, c'est que pour arriver à élaborer le trauma, il faut pouvoir le déplacer dans le pays d'accueil. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir acquérir la culture. Enfin, c'est ma théorie qui n'est pas toujours celle de tous. Il faut pouvoir acquérir la culture et le mode de pensée du pays d'accueil pour pouvoir créer en soi une sorte de mixité, c'est-à-dire pour conjuguer ce trauma avec d'autres traumas, avec d'autres histoires, avec une autre langue, une autre pensée.
Attendez, qu'appelez-vous le pays d'accueil ? Le pays géographique ?
La France.
Oui, donc là, vous parlez d'un traumatisme à partir de l'Arménie ou bien alors terrible traumatisme de la Shoah, de ceux qui ensuite reçoivent un accueil en France. Mais d'une manière plus générale, il y a d'autres traumas que les traumas historiques.
Les traumas personnels
que l'on reçoit. Comment passer d'un pays à un autre dans le trauma personnel ?
Eh bien, si je prends par exemple le cas de Annie Ernaux ou de Albert Camus, puisque j'ai parlé de ça, le pays de l'autre, à ce moment-là, c'est le pays de la culture. Voyez, par exemple, quand je dis que, pour parler des émigrés, des enfants d'émigrés, je me suis rendu compte que, dans le fond, Andromaque, c'était une émigrée. Quand je fais cette opération, c'est une opération qui n'est pas seulement littéraire, c'est une opération psychique. Alors, pour mon propre cas, effectivement, pour les survivants qui sont accueillis dans les pays dits d'accueil, alors ça c'est encore une ambiguïté dont il faudrait parler, il y a la possibilité de conjuguer cela. Mais je me demande comment peuvent faire les Rwandais qui sont obligés de vivre à côté de ceux qui ont découpé leurs parents en petits morceaux. Et moi je n'aurais jamais pu faire ce travail si mes parents étaient restés en Turquie.
Oui, donc vous avez vraiment eu besoin de cette distance.
Ah ben oui, sans distance, on ne peut pas. Sans distance, si vous voulez, ou bien on s'effondre, ou bien on devient violent.
Revenons-en à l'intraduisible. Deuil, mémoire, transmission. Donc, il y a des transmissions de ce fameux intraduisible qui se passerait en quelque sorte d'inconscient à inconscient.
Oui, oui, oui. Vous voyez, par exemple, je vous parlais des mains, puisque je parle beaucoup des mains, ce que transmettent les mains des survivants. Il y a une façon de sauvegarder les restes, de faire avec le peu qu'on a, qui est en même temps une méthode de créativité. Donc ça peut se passer, ça se transmet par les gestes, par... Oui, moi je ne pense pas que ça se transmet essentiellement par ce que l'on dit la chose. Parce que ce ne sont pas des choses qui se disent. Mais ça se transmet par le rapport à la vie qu'on exprime, le fait qu'on ne jette rien, que... Et puis que... C'est difficile à dire. Mais ça se transmet, je crois, oui. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui se refusent complètement à recevoir quoi que ce soit de cette transmission. Donc, il faut que, certainement, ils doivent recevoir quelque chose dont ils ne veulent pas. Et ils développent des techniques de résistance.
Et qui sont néfastes.
Ben oui, évidemment.
Oui, qui peuvent créer des troubles psychiques ou bien des maladies.
Oui, oui, mais enfin, beaucoup de gens sont dans la négation. Il n'y a pas que la négation politique.
Oui, donc...
C'est rien, c'est pas grave, ça va passer. Il faut oublier, c'est du passé.
Après des années d'études sur la question du trauma, une de vos réponses est de dire qu'il faut le regarder en face.
Ah oui, oui, oui. Oui, il faut le voir, oui.
Il faut travailler.
Oui. Parce que c'est créatif aussi de le voir, parce que de toute façon, on vient de là. Donc, il faut faire avec ce qu'on est.
Et on peut remonter encore plus loin. Vous parlez de votre grand-mère, pourquoi ne pas remonter encore plus loin? Puisque, après tout, votre grand-mère portait aussi une mémoire qu'elle a pu vous transmettre. Donc, on peut remonter loin dans ces cas-là.
Ben, écoutez, vous me tendez la perche. Par exemple, ma grand-mère me parlait sans arrêt de son oncle, qui était archevêque. Bon, alors un jour, je me suis dit, mais dans le fond, mes parents n'avaient pas été à l'école, ça va, mais n'empêche que j'avais quand même, dans la génération de mon arrière-grand-mère, un archevêque. Il a fait des études de théologie à Jérusalem. Alors évidemment, oui, ça crée des identifications, si vous voulez, qui vont au-delà de ce qu'on appelle l'instruction. Qui sont des identifications à des postures vis-à-vis de la vie.
Oui, mais là, il y avait langage. Elle vous l'a dit.
Oui, elle me l'a dit, oui.
Il aurait pu y avoir une transmission de quelque chose de votre passé, de son passé à elle, hors langage. Après tout ce que vous avez dit sur la transmission entre parents et enfants, peut nous permettre de remonter encore plus loin.
Oui, évidemment. Mais on ne sait pas, à ce moment-là, on ne peut pas dire de quoi il s'agit. On ne peut pas remonter jusqu'au... Ça se transmet de génération en génération. Il y a des textes de Freud qui disent ça.
Oui, justement. Oui. J'y pensais pour pouvoir terminer de la boucle, terminer avec Freud. Parce qu'après tout...
C'est Schubert, ça, oui.
Après tout, cette question de la fameuse transmission transgénérationnelle est une question que Freud a beaucoup abordée.
Ah oui, tout à fait, oui. Il dit que le ça enregistre les différentes étapes.
Le ça,
oui.
Voilà, alors nous allons passer du ça à Schubert. C'est audacieux.
Ben oui, ça, j'ai pas eu le temps de vous parler de mon amour de Schubert, mais enfin, sinon, un tout petit peu.
Vous n'en parlez pas et notre inconscient va être touché par votre amour. Ainsi se termine Fort intérieur sur ces airs de Schubert, une émission d'Olivier Jean Mathomas avec comme invité Jeannine Altounian qui a choisi les musiques que vous avez entendues. La première musique était un chant de la liturgie arménienne « Béni soit Dieu » par le chœur mixte arménien de Paris dirigé par Garbis Aprican. Et actuellement le presto du quartet pour violon « La jeune fille et la mort » de Franz Schubert par le quartet Borodine. Voilà, je vous renvoie aux ouvrages de mon invité. Vous pourrez trouver toute la liste, bien sûr, sur notre site sur la toile. Alors, nous avons abordé, bien sûr, puisque cette semaine était consacrée à Sigmund Freud, l'écriture de Freud que vous avez publiée au PUF. Nous avons abordé l'intraduisible publié chez Duno. Nous avons abordé ce texte très émouvant de votre père, Mémoire du génocide arménien au PUF. Nous n'avons pas parlé de la survivance, traduire le trauma collectif, mais tout cela forme une unité que nous avons essayé ensemble de saisir. Je vous rappelle donc que vous pouvez bien entendu avoir toutes ces informations sur notre site. Vous pouvez à travers d'ailleurs ce site nous écrire. Et je regarde maintenant mon carnet pour vous dire que notre invité la semaine prochaine sera un homme qui a un itinéraire extraordinaire, qui est né dans la communauté juive de Bagdad, probablement descendant de ceux qui avaient été exilés par Nabucodonosor il y a quand même quelques années, qui a ensuite choisi la langue française comme langue d'écriture et puis s'est installé au Canada. Il s'agit de l'écrivain Naïm Katan. Et le 12, nous serons avec un des plus éminents indianistes français, Pierre-Sylvain Filioza. Et nous serons, je tourne encore, avec l'historien Joël Schmitt le vendredi 19. Joël Schmitt, que je voulais inviter auparavant, mais un changement de programme a fait que nous aurons la joie de l'accueillir le 19 février.